Alors moi je m'appelle Julie et je pense que je représente un secteur d'intervention qui ne doit pas être majoritaire dans la salle, c'est celui de la polyvalence de secteur. Et je voulais réagir sur nos modalités d'intervention et les mythes qui circulent, véhiculés par nos hiérarchies sur l'organisation de la prise en charge des demandeurs d'asile, y compris quand ils sont reconnus réfugiés. Parce que nous, on a quand même un schéma d'intervention qui a été mis en place. Ou quand les personnes sont reconnues réfugiées, elles se retrouvent dans une sorte de vide d'accompagnement social, où on nous vend l'idée que c'est FTDA qui va les accompagner, alors qu'à l'évidence, ils ne le font pas, et qu'ensuite, ils sont dispatchés selon les circonscriptions d'action sociale, sans tenir compte de leur réel ancrage territorial. Du coup, on se retrouve avec des situations qui sont dramatiques au niveau humain. Où c'est les travailleurs sociaux qui doivent demander au cadre une dérogation pour pouvoir accompagner des familles dans des situations sanitaires et sociales dramatiques. Enfin, moi, par exemple, je vous le donne à titre indicatif, hein, j'ai dû me battre pour prendre une référence d'un couple qui a été débouté de l'asile avec une femme enceinte de 6 mois, qui avait d'énormes problèmes de santé dus à son errance résidentielle. Et on a dû appeler le 115 tous les jours. Pour qu'ils aient des mises à l'abri, puis ensuite, heureusement maintenant, des prises en charge pérennes, mais toujours pas dans le cadre d'un couple. J'ai aussi eu une femme qui a eu sa fille reconnue réfugiée, donc elle, du coup, qui a eu un titre de séjour, qui s'est retrouvée à la rue avec des refus 115, alors qu'elle est atteinte d'une maladie grave et sa fille également, et elle est enceinte. Nous, en polyvalence de secteur, on nous véhicule beaucoup de mythes sur la superbe organisation de la prise en charge des personnes demandeuses d'asile, y compris quand elles sont reconnues réfugiées, pour ne pas nous mettre, je pense, en difficulté par rapport à notre contexte d'intervention. À moi, personnellement, j'assume 90 références de famille. Mais voilà, il y a aussi une réelle difficulté, je pense, de mobiliser les travailleurs sociaux au sein de ce type d'institution au vu de la charge de travail. Mais voilà, on est face à... Ah, je sais pas du coup si j'ai des collègues aussi qui sont là, mais avec oui voilà, merci. Mais on a de réelles inquiétudes, particulièrement face à, je sais pas si vous êtes confrontés à ça, mais à la politique dramatique du 115 actuellement, où on a des refus en cascade qu'on n'avait jamais vu avant. Moi, j'ai été formée dans le domaine de la grande précarité, des refus de prise en charge de femmes enceintes. Avec un enfant de 3 ans, avec des situations, moi j'en avais jamais vu avant, et je suis très inquiète de cette question-là et de notre capacité à nous mobiliser. Je travaille pour un département qui a quand même une sensibilité politique qui permet de négocier, mais ça demande un investissement personnel assez énorme sur des situations alors qu'on est dans de la gestion de masse, hein. Nous, clairement, faire du travail social en polyvalence, c'est quand même assez complexe. Et enfin moi, l'analyse que je fais en tout cas sur le terrain, c'est qu'il manque un réel sas quand les personnes sont reconnues réfugiées pour qu'elles bénéficient d'un accompagnement. Et je vous apporte voilà, mon expérience en polyvalence. Il y a énormément de personnes qui sont sans accompagnement social. Il y a des personnels de l'accueil qui reçoivent pour consigne de ne pas donner de rendez-vous d'accueil en première évaluation avec un travailleur social en l'absence d'ancrage territorial. Et on est vraiment face à cette logique où je pense, même, enfin déjà quand on voit la difficulté de pouvoir seulement déposer une demande d'asile puis d'obtenir un statut derrière. Rien n'est prévu ensuite même pour que les personnes puissent être accompagnées enfin, avec un accompagnement de qualité, et ça devient de plus en plus dur de les faire même avoir accès à leurs droits fondamentaux.
Bonsoir, je m'appelle Manuel. Je voulais juste poser une question parmi les personnes qui sont dans la salle pour savoir si, s'il y avait des expériences par rapport aux sorties de structure. On parlait tout à l'heure des UDA. Dans les CADA, c'est le cas aujourd'hui, des personnes qui sont déboutées ou qui justement obtiennent le statut. Est-ce qu'il y a des injonctions, comment gérer les injonctions de la préfecture, de la hiérarchie pour éviter de remettre les personnes à la rue derrière? Et est-ce qu'il y a des stratégies un peu qui sont mises en place pour maintenir les personnes dans les murs, pour les réorienter vers des choses qui soient satisfaisantes? Mais quand les personnes sont déboutées, on sait qu'il n'y a rien derrière. Donc juste, c'était plutôt un appel à expérience de voir s'il y avait des idées par rapport à ça et s'il y avait des exemples de mobilisation aussi pour faire face à ces situations.
Bonjour. Bon, désolé, je suis arrivé après les présentations, donc vous avez peut-être déjà parlé de ce sujet. Moi, j'aimerais avoir des informations sur les centres d'accueil et d'examen de situation qui sont créés très récemment. On entend très peu parler, et donc voilà, je voulais savoir un petit peu ce qui se passait dans ce domaine-là et si du coup c'était amené à se développer et potentiellement se transformer en centre de rétention, tout simplement. Merci.
Du coup, sur les refus de prise en charge, je me permets d'intervenir puisque j'ai. Il y a maintenant un an, j'ai travaillé dans un ATSA, donc accueil temporaire au service asile. Et donc sur les fins de prise en charge, que ce soit pour des déboutés du droit d'asile ou pour des personnes qui ont une protection internationale, dans un premier temps, au sein de notre service, on s'était tous mis d'accord, les salariés, le chef de service, pour ne mettre aucune personne à la rue. Donc moi, j'ai quitté ce service, mais je suis restée en contact avec mes collègues. Et donc aujourd'hui, l'OFI a décidé d'entamer des procédures de référé pour expulser les personnes qui sont toujours hébergées alors qu'elles sont déboutées ou alors qu'elles ont une protection internationale, mais elles ont refusé un hébergement. Et donc, du coup, l'OFI a entamé des démarches judiciaires pour les expulser. Ça met du temps, enfin, ça prend du temps. Dans tous les cas, mes anciens collègues, voilà, refusent de mettre quelqu'un à la rue. Pour eux, c'est pas leur travail de mettre quelqu'un à la rue. Donc, du coup, je sais pas du tout comment ça va se passer quand les procédures vont aboutir, les procédures d'expulsion vont aboutir. Et je pense que c'est à ce moment-là où il faut se réunir, il faut se renseigner, il faut informer les personnes de leurs droits. Je pense que c'est le plus important, c'est vraiment d'informer les personnes de leurs droits. Et les accompagner au mieux. Après, c'est très compliqué. Quand maintenant, c'est l'OFI et même plus le centre d'hébergement qui entame ces procédures d'expulsion, mais l'OFI qui le fait directement. Finalement, on a très peu de marge de manœuvre en tant que salarié. Donc, je pense que le plus important, c'est d'informer les personnes sur leurs droits. Mais enfin, je ne sais pas du coup quoi d'autre répondre à part ça, quoi. Parce que.
Je me retrouve complètement dans ton témoignage concernant les fins de prise en charge hôtel et quand on est assistant de service social en polyvalence de secteur, c'est ce qu'il y a de plus dramatique. On a le plus souvent là en polyvalence de secteur ce sentiment d'impuissance de gérer la non-réponse à la demande des gens. Mais quand il s'agit de mise à l'abri où on passe plusieurs heures dans une détresse avec des sans-abri, avec l'impossibilité de décrocher du 115 et quand il décroche, c'est pour une fin de non-recevoir, que en effet, c'est très, très, ça nous laisse très démunis, c'est une grande situation de détresse et d'angoisse professionnelle, ces situations-là. Et pour autant, il y a eu des recours et des mais c'est par exemple en plus dans moi je me suis présenté pour je travaille en polyvalence de secteur au conseil départemental de Seine-Saint-Denis. On pourrait se dire c'est pas le département le plus réactionnaire par rapport aux Hauts-de-Seine ou mais il y a aussi des pratiques détestables non légales de refus de prise en charge hôtel parce que quand le 115 ne met pas à l'abri une famille avec enfant le département justement l'aide sociale à l'enfance ça devient une compétence du département de mettre à l'abri et le DAL notamment a mené une bataille victorieuse qui a été très très importante pour et en plus au plus haut niveau de juridiction français le Conseil d'État a retoqué le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis à plusieurs reprises sur les fins de prise en charge hôtel et ça a été un recours très 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 bien mené qui a demandé beaucoup d'énergie notamment aux camarades juristes du DAL qui a accompagné les familles de Montreuil dans cette bataille et c'est une jurisprudence très très intéressante dont il faudrait se servir dans tous les départements ou pour le public demandeur d'asile on considère que c'est pas le, on peut pas le recevoir. En, alors c'est faux. La polyvalence, on est susceptible de recevoir tout public, quelle que soit sa situation. Et sur les convergences de lutte, ça a été extraordinaire d'avoir cette bataille qui a été gagnée par le DAL et des AS qu'on accompagné, orienté des situations de rupture d'hébergement où il y avait une fin de prise en charge hôtel qui a été jugée illégale. Après, ce qui est lourd, c'est qu'en effet, sur chaque refus du département, on n'imagine pas qu'il faut attendre jusqu'à une décision du Conseil d'État. Mais en même temps, le droit et cette lutte-là a été quand même un signe envoyé au Conseil général qui, depuis, travaille sur ce qui n'est pas bête non plus, des alternatives à l'hébergement d'hôtel. Parce que c'est vrai que c'est dramatique, c'est très cher. Et c'est du coup, ils trouvaient des innovations dans ce sens, mais pas en prenant en otage les sans-abri en faisant des refus quand le 115 ne répond pas.
Juste, je voulais reprendre sur les centres d'accueil et d'évaluation de situation, enfin, si c'est ça le sigle. Donc, c'est des centres qui ont ouvert à la fermeture de la Bulle, à Porte de la Chapelle, de ce premier gros centre de tri du CPA. Et donc ces CAES ont été créés dans tous les départements. Et l'idée, c'est vraiment d'examiner les situations des personnes. Elles ne sont pas censées rester très longtemps. Je crois qu'elles restent 2-3 semaines. Et l'idée, c'est une prise d'en... Enfin, elles passent d'abord par les accueils de jour qui ont ouvert, voilà, 3 pour les hommes seuls et 1 pour les femmes et, seules et les familles. Et donc ensuite, après l'accueil de jour, elles sont orientées vers ces KES. Donc certains, c'est des gymnases. Il y en a celui de Paris, c'est la boulangerie qui est connue, ancien, enfin le gros centre d'hébergement assez traditionnel. Et donc dans ces KES, il y a censé y avoir des travailleurs sociaux. Donc par exemple à Paris, c'est Adoma, mais clairement de ce que j'ai pu en entendre, ça a pas l'air d'être trop des travailleurs sociaux. Ils savent même pas ouvrir une CMUC, donc ça pose question de ce qu'ils font vraiment avec les personnes qui sont accueillis au CES, donc la préfecture, et donc il y a l'OFI aussi qui est présent, et il y a un examen, en fait, principalement, ils essayent de voir si les gens peuvent être orientés ou si on peut leur donner un refus d'orientation et les remettre à la rue. Donc typiquement, si vous venez d'arriver en France et que bon, vous avez la chance de ne pas avoir vos empreintes nulle part, que vous êtes en procédure normale ou accélérée, enfin, on peut vous orienter dans un CADA partout en France ou un CHU migrant. Si vous êtes une personne dublinée, on aime bien vous garder en Île-de-France parce que c'est plus facile de vous contrôler. Et par contre, si vous revenez d'Italie, bah, vous avez un refus de prise en charge parce que fraude des conditions matérielles d'accueil de l'OFI, du coup, on vous remet à la rue après le CES, vous ne serez pas réorienté. Si vous êtes même un réfugié, en fait, tout ça, c'est un peu au bon vouloir des agents que vous rencontrez au moment où vous êtes au CES. Donc, il y a des agents qui sont plus conciliants que d'autres. Je parle des agents d'OFI, mais pas que. Et donc, par exemple, des réfugiés même, un réfugié qui aurait été dans un CHU migrant, par exemple, en 2016, aujourd'hui se retrouve dans un KES. S'il était dans un CHU migrant en 2016, qu'on lui a proposé une place d'hébergement et, ou une solution de relogement qu'il aurait refusé pour aller ailleurs de ses propres moyens, eh ben, on lui refuse une réorientation et il est remis à la rue. Parce que tu as déjà eu ta chance et tu l'as loupé. Donc en fait, les réfugiés, les seuls qui sont réintégrés dans le dispositif d'hébergement après les KES, les seuls réfugiés, ça va être ceux, par exemple, qui ont été en CADA pendant les 2 fois 3 mois, les périodes de prolongement possibles avec l'OFI, et pour qui on n'a aucune proposition qui avait été faite et qui avait eu une mise à la rue sèche. Eux, ok, on les réoriente, mais ceux qui ont déjà eu une place d'hébergement et qui l'ont loupé pour aller ailleurs, ou s'ils ont une fin de prise en charge pour non-respect du règlement, des choses comme ça, ils ne sont pas réorientés, ils sont remis à la rue, et ils sortent du KES. Donc aujourd'hui, c'est à ça que ressemblent les KES, c'est purement, on essaye de ce que j'ai l'impression que j'ai eu, c'est de trier vraiment qui on est obligé d'héberger, et qui on peut se permettre de remettre à la rue, et économiser des places. Aujourd'hui, avant, dans les CHU migrants, nous on accueillait des personnes qui venaient de Porte de la Chapelle, du gros centre. Aujourd'hui, on n'a que des personnes qui viennent de KES, différents KES d'Île-de-France, ça dépend un peu des places et des moments. Mais voilà.
Et juste sur Sol Asile, du coup, je vais réexpliquer vite fait ce que c'est. Donc, c'est un logiciel qui a été créé par le GIP, ce qu'on disait tout à l'heure, le groupement d'intérêt public, là, Habitat et Intervention sociale, qui est un... Parce qu'avant, ils avaient des tableaux Excel, le GIP, pour essayer de faire un suivi des situations des personnes dans les CHU migrants. Des tableaux Excel qui devaient être renvoyés par les équipes sociales ou les chefs de service, c'était pas très clair selon les centres, avec vraiment beaucoup d'informations personnelles, nom, prénom, âge et rêve, donc numéro d'étranger, date de naissance, type de procédure d'asile, les dates de rendez-vous, s'ils sont faits ou pas, enfin vraiment tout le détail de la vie de la personne. Des tableaux qui étaient censés être envoyés au GIP toutes les semaines pour contrôler si les personnes font bien des demandes d'asile, font bien les démarches, et s'ils ont encore leur place, s'ils sont légitimes à rester dans cette place d'hébergement ou s'ils peuvent être orientés ailleurs. Et donc ces tableaux Excel n'avaient pas l'air de trop marcher, et ça pose aussi pas mal de questions de transférer plein de tableaux Excel par mail avec des informations personnelles. Donc du coup, ils ont créé un logiciel, Sol Asile, donc normalement pour les centres d'hébergement, avec une liste, un déroulé des personnes qui sont hébergées dans le centre, avec plein d'informations personnelles, comme je disais tout à l'heure, nom, prénom, date de naissance, nationalité. Moi, j'avais rarement vu un logiciel qui permet de trier les nationalités. D'ailleurs, c'est interdit. Normalement, c'est français, européen ou non européen, mais on peut pas trier les gens s'ils sont afghans, érythréens, etc. Ça ne fonctionne pas. Et donc dans ce logiciel, il y a les dates de rendez-vous, les dates de période de récépissé. Il y a vraiment tout le détail de la vie de la personne. Et on demande aux travailleurs sociaux de le mettre à jour, ou parfois le chef de service, c'est pas très clair. Selon les gestionnaires, certains vont dire que c'est au chef de service de le faire, d'autres vont dire que c'est aux travailleurs sociaux de le faire. L'idée, c'est que le GIP puisse avoir un aperçu en temps réel des situations des personnes pour pouvoir fluidifier le système d'hébergement et réorienter les gens le plus facilement possible pour répondre d'une façon la plus adaptée possible. Donc c'est merveilleux comme langage, et l'idée pour eux, c'est de savoir combien ils ont de place en temps réel très facilement. Ah, le centre vient de sortir quelqu'un, donc on peut mettre quelqu'un très vite. Comme s'il n'y avait que ça comme moyen de savoir s'il y avait de la place dans un centre d'hébergement. Mais... C'est toute l'Île-de-France. Toute l'Île-de-France. Mais alors, en fait, c'était un projet que juste sur l'Île-de-France pour le moment. Mais c'était à part... Ouais, le but, c'était de le généraliser. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'il ne servait pas trop à grand-chose. Je pense que le GIP n'est pas équipé aussi pour bien contrôler les choses. Et c'est pour ça aussi que les CHUM deviennent des UDA. Parce que du coup, tout le monde dépend du DNA, ce gros logiciel national d'accueil des demandeurs d'asile.
Oui, j'allais vous demander si ça remplaçait le DNA, mais non, c'est en plus.
Bah oui, parce qu'on dépendait pas, en fait, vu que les CHU migrants, on n'était pas des établissements asile à proprement parler, on était un centre d'hébergement d'urgence. Ok, certes, pour des migrants, mais il y avait toujours la question de l'inconditionnalité de l'accueil et tout ça, donc ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient non plus. On dépendait pas de l'eau, enfin... Voilà, enfin... Voilà, assez... Enfin, faut l'avoir, l'inconditionnalité, mais après, bon...